au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 13 mai, j'espère que vous avez passé une bonne journée. 8 degrés actuellement au cœur de Lanaudière, pas très chaud. À l'émission aujourd'hui, les craintes d'espionnage de Paul Saint-Pierre Plamondon, le point de vue de Pierre Paquette. Julie Paquette sera avec nous aussi, elle est vice-présidente de communication et stratégie chez Nouveau Monde Graphite, la compagnie qui va de l'avant dans son projet malgré une certaine opposition de la communauté Atikamekw. On va revenir aussi sur le dossier controversé des parcomètres numériques à l'Assomption, notre collègue Régent Turgeon a rencontré des commerçants en désaccord avec le maire. Aussi à l'émission, Jean-Pascal Provost et les promoteurs immobiliers, on parle d'un nouveau projet résidentiel du côté de Saint-Côme. Mais pour débuter, deux sondages, un Palace d'Attal Actualité et un autre Synopsis La Presse indiquent une remontée de la CAQ dans les intentions de vote, le PQ et le Parti libéral du Québec qui sont par ailleurs pratiquement au coude à coude. Et François Morin en a discuté plus tôt aujourd'hui avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger. On parle plutôt, clairement là, des résultats du Palace d'Atta et de l'actualité.
Donc, il y a une remontée du Parti libéral, mais effectivement, surtout chez les anglophones, qui sont retournés au Parti libéral après l'avoir délaissé là, dans les derniers temps, notamment avec le passage de Dominique Anglade aux dernières élections, avec le passage difficile de Pablo Rodriguez il y a quelques mois. Donc, on récupère cet électorat-là, puis des gens qui s'étaient réfugiés à la CAQ, qui l'ont délaissé, évidemment, aussi. Ce qui fait que, quand on regarde le portrait d'ensemble, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois sont à égalité, à peu près, d'un point de vue statistique. Mais évidemment, comme le vote libéral est très concentré, comme ce l'est toujours dans les circonscriptions anglophones et allophones, donc particulièrement l'ouest de Montréal, notamment, la région de Gatineau, ben ça fait en sorte que ça serait probablement le Parti québécois qui formerait le gouvernement. Majoritaire ou minoritaire, ça resterait à voir. Mais on est à la limite, justement, entre les deux. Donc, le Parti libéral qui réussit à faire des gains, il reste une barrière à franchir, qui est d'aller chercher, justement, un appui plus large que ça dans le reste de la population, notamment la population francophone. Mais on voit qu'il y a une certaine écoute. C'est ce que les messages, sondages, c'est cela. Lorsqu'on dit que dans 4-5-0, le Parti québécois mène de peu par rapport au Parti libéral du Québec, avec seulement 3 points de pourcentage, ben ça pourrait basculer assez rapidement si des gens s'intéressent plus au Parti libéral, mais qu'il y a ce potentiel-là. Et en ce sens, ben ça montre que pour cet automne, lorsqu'il y aurait la campagne électorale, ben rien n'est joué d'avance. Et dans une campagne électorale, c'est là que les gens commencent à beaucoup plus écouter les acteurs politiques. Et en ce sens-là, ben quelqu'un qui est très peu connu comme Charles Millard, le chef du Parti libéral du Québec, ben pourrait potentiellement séduire des gens. Il y a un potentiel pour ça. Et on pourrait se retrouver avec une tendance électorale complètement différente de ce qu'on connaît présentement. Mais évidemment, tout ça, ben ça reste à voir. Pour l'instant, le Parti québécois demeure globalement, d'un point de vue là, de nombre de députés qu'on aurait si les élections avaient lieu demain matin, en avance. Mais on voit que c'est une avance qui demeure quand même, somme toute, fragile.
Et on parle de la région du 4-5-0. Évidemment, c'est vaste. C'est pas seulement Lanaudière, mais c'est une bonne partie Lanaudière et ça s'annonce intéressant, semble-t-il.
Il va falloir voir un peu plus concrètement comment ça se découpe, parce qu'effectivement, c'est gros le 4-5-0 et il y a une réalité très différente entre Terrebonne, Joliette et Brossard. C'est-à-dire que dans Brossard va être habituellement beaucoup plus porté vers les libéraux. Joliette beaucoup plus vers le Parti québécois, puis Terrebonne, ben on l'a vu récemment que l'élection partielle fédérale, ça peut basculer dans un sens ou dans un autre. Donc, il y a des réalités qui sont très diverses et qui s'expliquent beaucoup par la composition démographique des diverses circonscriptions électorales. Encore une fois, quel est le pourcentage de francophones par rapport aux anglophones ou aux allophones? Mais ça, c'est une grande incidence, puis c'est le même depuis des décennies, ça a une grande incidence sur les intentions de vote et à quel point on risque d'appuyer une formation politique ou une autre.
Et il faudra voir aussi les tendances des prochains sondages. On voit ça là, depuis quelques mois déjà. On parle du Parti québécois qui est depuis un certain nombre de mois en avance. Mais là, est-ce qu'on peut parler déjà peut-être d'un effet fréchette qui pourrait permettre à la CAQ de sauver les meubles?
Il y a un effet fréchette À quel point que c'est significatif, à quel point que ça permettra de sauver les meubles, ça reste à voir. Dans le sondage, justement, qu'on a là, la CAQ monte à 18% d'intention de vote. Ben, 18% d'intention de vote, on n'est pas loin, justement, du 20%. Ça pourrait jouer aussi. Christine Fréchette aussi est encore peu connue. Et d'ailleurs, on le voit dans le sondage, le nombre de personnes qui ne se prononcent pas sur la satisfaction ou l'insatisfaction à l'égard du gouvernement dirigé par Christine Fréchette. On est à 26% des gens qui ne se prononcent pas, ce qui est quand même assez élevé. Ce que ça montre, c'est que pour beaucoup de gens, on observe Christine Fréchette puis on attend avant d'avoir une opinion. Ce qui est quand même un bon signe pour elle, c'est-à-dire que les gens observent. Alors que sous François Legault, on n'écoutait plus du tout ce que la CAQ avait à dire. Et en ce sens-là, ben ça pourrait basculer dans une certaine satisfaction. Ça peut aller dans l'autre sens aussi, mais il y a une chance que ça bascule dans une certaine satisfaction. Et dans lequel cas, ben on serait à quelques points de pourcentage d'effectivement être capable de regagner assez d'appui pour redevenir significatif, retomber dans ce qu'on appelle en sciences politiques la zone payante. C'est-à-dire souvent autour de 20 points de pourcentage, 20 à 25, où là, on réussit à avoir assez de gains dans assez de circonscriptions pour pouvoir avoir des députés justement. Alors que, par exemple, du Parti du conservateur du Québec, qui redescend à 13 points de pourcentage, donc c'est essentiellement un basculement à première vue là entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec, ce qu'on voit là, une montée de la CAQ, petite montée de la CAQ, petite descente du Parti conservateur, ben à 13% d'appui dans les intentions de vote. Pour le Parti conservateur, ça devient un peu plus difficile de s'assurer d'avoir certains députés, quoique beaucoup de ce vote-là est concentré dans certaines régions, par exemple en Beauce, dans la région de Québec. Donc, il y a encore du potentiel pour avoir un ou des élus du Parti conservateur, mais ça devient quand même difficile. Bref, il y a de l'espoir pour la CAQ, pas pour former le gouvernement, on n'est pas encore là, mais pour sauver les meubles, c'est encore possible à ce stade-ci.
Voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. Je le disais déjà depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de Christine Fréchette, qui on sortait des sondages au moment où Christine Fréchette a été nommée. Là. Non, il fallait attendre un petit peu pour faire des sondages. Là, deux sondages aujourd'hui, un Palace Data l'actualité, un autre Synopsis la presse, là, qui place le Parti québécois et le Parti libéral presque nez à nez, et une remontée de la CAQ. Dans un moment, Jean-Pascal Provost, c'est un promoteur immobilier. On va parler d'un nouveau projet résidentiel du côté de Saint-Côme.
Votre réseau ralentit vos opérations? Avec Fleet Info, profitez de solutions réseautiques fiables, Wi-Fi performant et support technique rapide avec service d'urgence 24/7. Optimisez votre entreprise dès maintenant avec Fleet Info, expert TI.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Amateurs de burgers, venez déguster le savoureux burger Angus fromage et bacon de Harvey's. Fait de bœuf Angus de première qualité, cuit sur le grill et garni à votre goût. Rendez-vous dès maintenant au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
Tout le contenu de votre radio dans une seule application. L'application CFNJ sur Android et Apple.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement $99 plus taxes par semaine sans aucun comptant initial chez Joliette Nissan.
Lanoudière PM Immobilier.
Un projet résidentiel nouveau genre est en voie de réalisation dans le secteur de Saint-Côme, baptisé Écôme Habitat. Il propose un accès à un nombre limité de terrains sur une superficie de 5,8 millions de pieds carrés, dont la moitié seront préservés à leur état naturel. Et François Morin en a discuté avec le promoteur Jean-Pascal Provost.
Oui, ben, comme Habitat Lanaudière, en fait, c'est un projet immobilier qui est né il y a à peu près 4 ans, mais qui est avant tout, en fait, la création d'un milieu de vie. Ça émane d'une idée qu'on a eue de s'établir dans une zone plus rurale, puis on s'est posé la question, ce qu'on voulait vivre, nous, en fait. Puis, ben, à travers ça, c'est développé le projet où on a été capable de ficeler un peu plus ces éléments-là en répondant à la question d'avoir un milieu qui est plus durable, vivant, qui est inspirant. Fait que là, de là est né ce petit développement éco-responsable et qu'on met à la Nodière de 45 terrains, de 135 acres, en fait. Puis, on donne accès à la moitié de la forêt, je dirais, à tous les propriétaires qui achètent un terrain chez nous.
Parce que par les temps qui courent, et ça, c'est très important pour tout le monde, la sauvegarde de l'environnement immédiat là, est primordiale.
Absolument. Puis, je vous dirais même qu'on veut un peu démocratiser l'accès au territoire, l'accès à cette nature-là. On le sait que pour la réduction du stress, par exemple, c'est hyper important, mais naturellement aussi au niveau écologique. Mais l'idée, en fait, de tout ça, c'est de pouvoir démocratiser cet accès-là, donc donner accès à la nature, au territoire, aux gens qui vont venir s'établir chez nous. Plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que déjà, on a des terrains de 50 000 pieds carrés et plus que les gens peuvent se procurer, mais on parle d'à peu près 2,5 millions de pieds carrés de nature, là, de sentiers, où les gens vont pouvoir bénéficier de cet accès-là gratuitement.
Puis évidemment, bon, on a respecté, si le projet se réalise, parce qu'on a respecté là, toute la réglementation au niveau de l'urbanisme et au niveau de l'aménagement du territoire.
Absolument. On est là pour accompagner les gens aussi à travers ce processus-là. Vous savez, l'idée, c'est vraiment de créer un milieu de vie. On veut que les gens qui viennent s'établir chez nous, que ce soit dans une résidence principale ou même une résidence secondaire, se sentent bien. On a voulu placer l'humain au centre du projet, puis on a pris des décisions qui reflétaient ça. On a 3 terrains collectifs. Notamment en plus des sentiers, puis les gens sont invités en fait parce que c'est toujours sous forme d'invitation, c'est une participation facultative. Mais ce qu'on propose, nous, en fait, c'est que les gens nous aident à administrer ces terrains collectifs-là. Par exemple, un des terrains, on envisage une serre collective, bon, un terrain de pétanque, rond de feu, un parc pour les enfants, peut-être une piscine, qui sait. Mais les gens, dans l'association, parce que les gens vont faire partie de l'association des propriétaires, le font déjà, hein, soit dit en passant, on est déjà plus d'une quinzaine de terrains de vendus. Ben, les gens vont décider ce qu'ils veulent faire avec ces terrains collectifs-là.
Puis évidemment, d'amener des services publics dans cet endroit-là, comme on dit en bon québécois, ça peut-être... coûter, puis là, je vais me permettre l'expression, coûter une terre en bois de boue.
Effectivement, c'est certain que, naturellement, bon, l'électricité est déjà rendue. Au niveau des services, on fonctionne par puits artésiens, puits installations septiques. Donc, chacun a ses propres installations. Mais oui, malheureusement ou heureusement, ce genre de projet-là nécessite qu'on fasse des investissements majeurs au niveau privé pour essayer de proposer une façon de vivre un peu autrement, pas juste de laisser ça dans les mains de la municipalité, du gouvernement, des organismes sans but lucratif. On veut aussi que le privé puisse démontrer que ça se fait.
Et ce que je comprends aussi du projet, de ce que j'en ai lu, en tout cas, c'est qu'on conserve effectivement, je dis pas dans son intégralité, parce qu'il faut construire, mais une bonne partie de la forêt.
C'est ce qu'on propose aux gens. On a des critères au niveau de la charte d'implantation qui sont obligatoires, donc qui sont suggérés. On fonctionne principalement par information plus que par coercition. Là, on pense que quand on explique aux gens le bien fondé un peu de notre vision, en général, les gens y adhèrent. Mais oui, on a une conservation, on a un souci de conserver le boisé, donc le couvert forestier sur chacun des terrains, qui est un petit peu plus sévère que les normes municipales actuelles. Fait que, en général, c'est pas un élément qu'on a besoin d'expliquer très longtemps parce que ça a des impacts qui sont directs puis des avantages directs au niveau des propriétaires qui construisent des maisons.
On le sait, la Nodière, c'est une région qui est quand même prisée, effectivement, pour ses paysages. Alors, la grande question existentielle, est-ce que c'est à la portée d'à peu près toutes les bourses?
Ben, je vous dirais qu'actuellement, avec les prix qui fluctuent, on est dans le prix du marché. Non seulement on est dans le prix du marché, mais en plus de ça, nos terrains offrent des vues assez impressionnantes sur les montagnes environnantes. Puis on a préservé l'espace qui est en avant, en arrière, pour que la vue qu'on voit aujourd'hui, ce soit la même qu'on voit dans 10 ans. Ça, c'est un élément supplémentaire peut-être que Ecom Habitat peut offrir. Mais ce que ça permet, c'est surtout de conserver la valeur de ces terrains-là, voire même de l'augmenter au fil du temps. Puis malgré le fait qu'on essaie de mettre un peu plus la collectivité au centre, la nature au centre, on est quand même conscient que quand les gens investissent pour un terrain, pour une maison, pour un chalet, c'est un investissement majeur, mais on veut protéger cet investissement-là aussi. C'est pour ça que le projet est pensé pour que, à travers le temps, ça soit une valeur qui va être en augmentant finalement, là.
Somme toute, ça va être un domaine un petit peu privé, là, parce que on parle d'une association de propriétaires, donc c'est pas n'importe qui y aura accès.
C'est-à-dire que dans nos 3 espaces qui sont collectifs, donc communs, naturellement, les propriétaires y ont accès. On ferme pas la porte aux citoyens, citoyennes de Saint-Côme, parce que ce projet-là, il est situé à Saint-Côme, pas très loin du noyau villageois. Notre objectif, c'est quand même d'avoir un impact, de susciter l'intérêt puis d'inspirer un peu les gens. Fait que le but, c'est pas d'avoir une communauté fermée, pas du tout, mais effectivement, c'est certain que les propriétaires auront certains droits exclusifs puis certains avantages là en étant propriétaire chez nous.
Dernière question, parce que je veux revenir là-dessus, c'est important. Si moi je veux m'acheter une propriété dans ce coin-là, les prix peuvent varier de combien à combien?
Alors, les terrains actuellement partent à peu près à 120 000, puis on termine à 140 000. L'idée là-dedans, parce que c'est une réflexion qu'on a eue aussi, on voulait que les terrains demeurent le plus accessible possible sans être non plus hors du prix du marché. Parce que vous savez que quand on a des projets comme ça, un des dangers, c'est, en bon français, permettez-moi l'expression, mais c'est de lowballer les prix pour faire en sorte de les écouler. Nous, on en a très peu, hein, au maximum. À terme, ce projet-là, sur 3 phases, c'est 45 terrains. Mais le but, c'est pas non plus de faire la spéculation sur ces terrains-là, d'acheter 3 terrains, d'attendre qu'ils prennent la valeur, de les revendre. C'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est un projet qu'on veut vivant. On veut que les gens achètent un terrain pour venir éventuellement s'y construire. Donc, les prix reflètent un peu cette réalité-là actuellement.
Jean-Pascal Provost, il est promoteur d'un projet résidentiel du côté de Saint-Côme, baptisé Ecom Habitat.
Lanaudière PM, affaires municipales.
16h23, tel que prévu, le dossier des parcomètres numériques payants a retenu l'attention hier soir au Conseil de ville de l'Assomption, alors que les citoyens, des étudiants, des commerçants ont manifesté leur opposition au projet. L'herboriste Isabelle Delisle et le propriétaire du restaurant Le Lasson, Pierre Martel, ont présenté au maire Nadeau une pétition de 42 noms de commerçants dénonçant l'initiative. Isabelle Delisle et Pierre Martel craignent notamment que les parcomètres payants fassent fuir la clientèle, alors qu'ils représentent quand même pour eux une taxe sur l'achat local. Notre collègue Régent Turgeon a eu l'occasion de les rencontrer.
Madame Delisle, vous êtes derrière une pétition des commerçants du centre-ville de l'Assomption qui avait manifesté assez bruyamment votre opposition à l'idée de parcomètres payants. Qu'est-ce qui est l'enjeu derrière ça?
L'enjeu, c'est de voir notre beau village, notre centre-ville se vider, que nos clients aient de la difficulté à stationner. Ça crée aussi beaucoup d'iniquité avec les gens qui n'ont pas accès à un cellulaire parce que c'est une application qui est
mobile.
Ouais, virtuelle. Donc, la difficulté, ça va mettre une entrave au bon fonctionnement de la ville, tout simplement.
Est-ce que vous sentez que le centre-ville dépérit, comme M. Nadeau semble dire ou l'invoquer?
On n'a aucun local à louer. Tout est plein. Dernièrement, justement, on avait une belle vitalité, je trouvais, au centre-ville, une espèce de regain. Non, il n'y a pas de dévitalisation.
M. Martel, là, vous n'êtes pas dernier né sur le boulevard L'Ange Gardien. Vous voyez ça comment, vous, cette perspective de stationnement payant?
Bien, moi, selon l'avis de la plupart de mes clients, des commerçants, parce que j'ai fait le tour de presque la majorité de tout le monde pour faire signer une pétition qu'Isabelle avait préparée, c'est carrément non. C'est une mauvaise idée. Tout le monde est est choqué. Comment qu'on peut penser qu'une ville de 25 000 habitants décide de mettre des parcs commerciaux virtuels dans une presqu'île, dans les rues privées, les maisons privées vont avoir des parcs commerciaux devant chez eux. C'est n'importe quoi, c'est enrageant.
On a aussi des soucis pour le respect de la vie privée parce que c'est une application qui scanne les plaques d'immatriculation. Donc, ça, il n'y a plus d'anonymat. On peut plus se promener dans le centre-ville, venir se stationner sans qu'on sache où on était, combien de temps on était, avec qui on était.
Ce qu'on entend, c'est que...
C'est presque un objet de surveillance.
Ce qu'on entend, c'est que les commerçants ont peur et on pense que ces stationnements payants sont une taxe sur l'achat local. C'est ce que vous croyez?
Oui. En plein ça, une taxe supplémentaire, puis nos gens sont suffisamment taxés.
Avez-vous l'impression, M. Martel, que la ville n'est pas conciliante? Bon, M. Nadeau vous tend une perche là, pour essayer de dialoguer davantage puis vous faire comprendre la réglementation que lui veut installer.
J'ai pas vu de perche. J'ai vu plus... on va dire... Il n'a pas comme respecté la pétition qu'on vient d'apporter en disant...
Invalider. Ouais. Ils viennent nous invalider notre opinion. Du revers de la main.
On a fait, cette semaine, là, j'ai fait le tour. Lundi, mardi, mon restaurant est fermé. Je fais le tour. En fait, c'est la semaine passée. Je fais le tour de tous les commerces. Pendant mes deux jours de congé, Isabelle a complété cette semaine. Puis il nous dit, c'est une pétition qu'il y a trois semaines. C'est pas vrai. On vient de le faire les deux. Là. On le sait que c'est là que ça s'est fait. Fait qu'on comprend pas qu'ils disent devant tout le monde que... C'est nous qui le fait, puis il nous dit, bien là, ça a trois semaines, il y en a qui ont changé d'avis.
Madame Delisle, au final, est-ce qu'on est prêt à poursuivre le dialogue avec la ville de l'Assomption pour en venir à des ententes là, qui conviennent à tout le monde?
C'est pour ça qu'on est ici ce soir, mais pour l'instant, c'est un dialogue de sourds, malheureusement.
Ben, ce sont deux citoyens, en fait, deux commerçants de l'Assomption, Isabelle Delisle, qu'on vient d'entendre, qui est herboriste, et Pierre Martel, propriétaire du restaurant Le Lasson, qui ont déposé une pétition de 42 noms de commerçants là, dénonçant l'initiative là, du maire Sébastien Nadeau concernant ces fameux parcomètres virtuels dans l'Assomption. Il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, ben c'est pas facile, il faut prendre son mal en patience. Métropolitaine pour Charles de Gaulle, là, assez nombreux depuis le boulevard du Roi René. Il n'y a pas de grosse congestion, mais c'est dense, peut-être en raison des précipitations. Ça le demeure là, jusqu'à la hauteur d'Henri Bourassa, même un peu passé Henri Bourassa. Bon, bonne nouvelle, on traverse aisément la rivière des Prairies du côté de Repentigny, 40 Est, un petit peu plus nombreux, secteur boulevard industriel, la 341 montée de l'Épiphanie, assez dense entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont Le Gardeur, c'est assez lourd en ce moment depuis Montréal pour franchir la rivière des Prairies. La 25 Nord, oh là là, c'est rare qu'on voit ça, là, mais c'est depuis la métropolitaine, carrément. Là. Bon ralentissement, secteur Montréal, ça demeure dense sur le pont payant de la rivière des Prairies. Et c'est dense jusqu'au boulevard des Mille-Îles à Laval. Donc, vous voyez, ça, c'est carrément là, sur une longueur de plusieurs kilomètres. Secteur Île-Saint-Jean, ça va bien. Terrebonne, assez facile. Mascouche également, ça, c'est une bonne nouvelle. Pont Sophie-Masson, approche un petit peu lente, mais la traversée est facile vers Terrebonne. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. C'est assez dense dans les deux directions. Je vous dirais entre direction ouest, là, c'est entre la montée du Jumet et la 40 et direction ouest, également entre la 40 et la montée du Jumet. Les nouvelles dans un instant.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitres. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450 1-855-659-6928.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur voisin Polo dans le Carrefour du Moulin, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, épicerie Forêt, dépanneur voisin Joliette, dépanneur Super Sagami Pétro-Canada et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soirchel, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 voisin, dépanneur des Prairies, marché Philippe voisin. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra, dépanneur voisin. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le Théâtre de l'œil ouvert présente L'Effet Lisa, un théâtre musical original inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins. Jenny, le bum, le bon gars, la femme de ménage, l'enraciné du Boomtown Café et l'homme du camp prennent vie en plein cœur d'un feu de forêt. Sous le regard tendre et brûlant de Lisa, la lune. D'où vient le tison qui a tout allumé? L'effet Lisa, dès le 10 juillet au Centre culturel Desjardins à Joliette. Billets en vente, l'effetlisa.ca.
L'actualité de ce mercredi 13 mai en manchette, les femmes pourront connaître les antécédents de partenaires violents. Couvre-feu envisagé pour les adolescents adeptes de cyclomoteurs et Meta et Facebook poursuivis pour utilisation de fausses images. Tout d'abord, Pierre Jubainville, le projet de loi Gaby-Renault officiellement déposé.
Oui, déposé sa version qui permettra aux femmes de vérifier les antécédents de leur partenaire intime en matière de violence conjugale. On sait que 10 femmes sont décédées depuis le début de l'année de façon violente et, Claude, les balises restent quand même à établir.
En septembre 2025, Gaby-Renault était retrouvée morte dans sa résidence de Saint-Jérôme. Et tout de suite, les soupçons se sont tournés vers son conjoint, indique la sœur de la victime, Rachel Renault.
Cet homme, un multirécidiviste de la violence conjugale, a tué ma sœur.
Pour éviter des drames semblables, Québec permettra aux conjoints qui craignent pour leur sécurité de faire vérifier les antécédents de leur partenaire, poursuit le ministre Yann Lafrenière.
L'objectif est bien simple, c'est de permettre à une personne de prendre une décision éclairée, sans toutefois lui imposer un choix.
En remplissant un simple formulaire, la Sûreté du Québec étudiera les antécédents judiciaires, mais aussi les plaintes logées à la police. Le dossier sera ensuite remis à un organisme qui vient en aide aux femmes, précise la ministre de la Condition féminine, Martine Biron.
Pour lui transmettre l'information ainsi que l'analyse et s'assurer qu'il y a le suivi nécessaire.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle, Québec.
Les adolescents adeptes de cyclomoteurs, c'est-à-dire les mobylettes, les scooters, là, pourraient devoir rentrer plus tôt à la maison.
Oui, et le porte-parole de la Société de l'assurance automobile, Simon-Pierre Poulin, souligne que le profil type de la victime d'accident mortel en scooter est un garçon inexpérimenté conduisant la nuit et souvent distrait par son téléphone. À l'heure actuelle, un jeune de 14 ans peut obtenir un permis pour conduire un scooter qui est limité à 70 km/h après une formation de seulement 6 heures. Mais la SAAC pourrait encore aller plus loin pour assurer la sécurité des jeunes.
C'est une des solutions qui sont analysées. En ce moment, tout est sur la table. C'est sûr qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux réglementer ça, mieux encadrer ça? Il y a un comité de travail. On se pose la question en ce moment. Il faut regarder tout ça. Là, on parle de la loi, mais il y a le contrôle aussi. T'sais, nous, on analyse où sont les accidents, dans quel contexte, on partage ça aux policiers aussi pour qu'ils puissent faire des opérations de contrôle plus spécifiques, puis la prévention.
L'utilisation d'images de personnalités dans de fausses publicités se retrouvera en cours.
Dans ce cas-ci, il s'agit de l'animatrice Marie-Claude Barrette qui pourra poursuivre sa bataille contre Meta et Facebook en raison de l'utilisation de son image dans de fausses publicités.
Ça, c'est terrible parce qu'il y a des gens qui se font embobiner. Là,
absolument, c'est un véritable fléau. Le tribunal autorise donc une action collective contre le géant numérique. On écoute Annie Guillemette.
En 2023, Marie-Claude Barrette apprend que son image est utilisée sans son consentement dans une publicité de crypto-monnaie sur Facebook. Meta refuse de la supprimer et affirme de ne pas contrôler le contenu de ses plateformes. Le tribunal déclare maintenant que l'entreprise doit vérifier les publicités si on l'informe qu'elles sont fausses. L'animatrice qui devient le visage de l'action collective comprend le défi, mais a confiance.
C'est pas parce que c'est gros que Meta que c'est inattaquable.
Son avocat, Maître Gérard Samet, est dans le même esprit et attend de voir la stratégie du géant numérique.
Je ne serais pas étonné que Facebook Meta nous propose un deal ou une négociation.
Si un procès a lieu, Marie-Claude Barrette se dit très lucide sur le chemin encore à parcourir.
Moi, j'ai de l'espoir, j'y crois, puis on prendra le temps qu'il faut.
Les personnes qui ont perdu d'importantes sommes dans la fraude de crypto-monnaie poursuivent aussi Meta et Facebook. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Vraiment très intéressant comme procès. Ce sera à suivre et imaginons que ça pourra faire jurisprudence.
Absolument.
Y a des accusations qui pourraient être déposées contre un mouvement religieux.
Oui, la mission de l'Esprit-Saint. Il y a 550 personnes qui font partie de cette...
secte, dans
la Nodière. Un dossier aurait même été déposé au directeur des poursuites criminelles et pénales. Des accusations pourraient donc être portées contre des membres du mouvement religieux sectaire qui ne respecteraient pas la loi et qui enseignent dans des écoles dites illégales. Rappelons que celui qui est qualifié de chef spirituel du mouvement, Eugène Doucet, reviendra devant le tribunal à Joliette le 25 juin et il répondra à plusieurs accusations de nature sexuelle impliquant un adulte et des mineurs.
Incroyable. Mmh. Bon, merci Pierre. Il est 16h37.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. Lanaudière PM. Économie.
Malgré certaines récriminations de membres de la communauté Atikamekw de Manawan qui prétendent que le projet minier de Nouveau Monde Graphite ne respecte pas le territoire ancestral, ben la minière va de l'avant. François Morin s'est entretenu avec la vice-présidente communication et stratégie chez Nouveau Monde Graphite, Julie Paquette.
Alors, Julie Paquette, encore pas mal d'activités, des bonnes nouvelles également du côté de Nouveau Monde Graphite. Pour ce qui est d'abord de la structure financière, là, comme on dit, les ficelles s'attachent de plus en plus.
Oui, effectivement. Donc, on a déjà annoncé le volet de la dette avec le prêt commercial avec EDC et la Banque d'infrastructure du Canada. Le volet en équité, on devrait pouvoir clôturer les placements à l'issue du vote des actionnaires. Tout est en place là vraiment pour le lancement de la mine et déjà les travaux s'activent au chantier.
Bon, ben justement, là, on le rappellera, il n'y a pas tellement longtemps, on avait annoncé là, que les contrats avaient commencé à être donnés, donc il commence à avoir de l'activité là, à la mine comme telle.
Tout à fait. Donc, on a notre équipe intégrée. On travaille avec Pomerleau, qui est le gestionnaire du chantier, qui ne réalise pas les travaux, mais qui supervise avec nous l'exécution du projet. Donc, Pomerleau est sur site, notre équipe de construction d'environnement est sur site. Premier entrepreneur à être arrivé, Manawan Fournier, qui réalisera les travaux civils. On a déjà une trentaine de travailleurs, travailleuses là, au chantier tous les jours. Et la machinerie, les travailleurs continuent d'arriver là, graduellement à mesure qu'on avance dans l'échéancier de construction.
Est-ce qu'on a une idée des retombées ou, si on veut, de la valeur des contrats qui sont accordés? Parce qu'évidemment, là, on parle de travaux majeurs, de création également d'emplois. Donc, c'est des retombées directes, là.
Oui, effectivement. Non, j'ai malheureusement pas la valeur exacte des contrats. Pour nous, c'est évidemment significatif. C'est un projet qui se veut autant que possible en partenariat avec les communautés. Donc, par exemple, dans le contrat de travaux civils, c'est une co-entreprise du conseil de bande de Manawan avec Fournier, l'entrepreneur civil. Donc, on crée localement, on offre des avenues de formation. C'est vraiment l'esprit du projet de s'assurer que c'est fait en collaboration.
Et parallèlement au chantier du côté de la mine, ça avance également du côté de l'usine de transformation à Bécancour.
Effectivement. Donc, à Bécancour, on est dans un blitz d'ingénierie pour pouvoir ajuster nos plans de production à l'édifice qu'on a acheté au courant de l'hiver. Donc, on a acheté un ancien complexe industriel qui nous permet de construire une première capacité de production de matériel d'anode pour remplir notre contrat avec Panasonic Energy. Donc, présentement, on est en train là, vraiment d'aligner les plans d'ingénierie avec le bâtiment, optimiser un peu toute cette enveloppe-là. On prévoit être capable là, de sortir des premiers estimés au niveau du coût de réalisation de ce projet-là là, d'ici la mi-année, d'ici la fin juin probablement, début juillet, qui va nous permettre ensuite là de pouvoir lancer à l'automne un peu la même séquence qu'on a eue avec la mine. Hein. Donc, il faut qu'on attache le financement, puis ensuite, très rapidement, on va lancer la construction. L'objectif pour nous, c'est que la mine et l'usine de Bécancour entrent en production commerciale en même temps. Donc, tout est bien aligné à ce stade-ci là, pour remplir cet objectif.
Et on parle de quand, à peu près?
Pour le début de la production?
Ouais, voilà.
Oui, on parle de fin 2028, début 2029.
Et la beauté de la chose également, et ça, faut le rappeler, c'est peut-être passé, c'est pas passé nécessairement sous le plancher, là, mais on n'est pas seulement dans l'industrie des batteries, là, l'industrie de la défense également offre des opportunités là, pour Nouveau Monde Graphite.
Oui, en effet, le graphite, c'est un matériel qui est utilisé à plein d'applications. Donc, évidemment, les batteries lithium-ion comme telles, on les retrouve dans le secteur des transports, dans le secteur du stockage d'énergie, également dans plein de technologies qui sont utilisées en défense ou dans d'autres secteurs comme l'aérospatial. Également, des applications au niveau des matériaux avancés, des composites, donc des matériaux qu'on développe pour des propriétés spécifiques. On a d'ailleurs des projets de recherche avec l'Université du Québec à Trois-Rivières à cet égard, qui nous a démontré que notre graphite se comporte très bien dans des applications de haute performance. Donc, c'est tous ces marchés-là qui sont très nichés, mais qui ajoutent beaucoup de valeur aux milliers de produits qu'on peut offrir et qui également créent de la propriété intellectuelle au Québec. Donc, très attrayant d'aller au-delà du simple projet minier, mais d'ouvrir des portes vers des nouvelles industries, des nouveaux marchés, des nouvelles technologies.
J'ai péché par omission, je vais poser la question. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, de difficulté à embaucher de la main-d'œuvre, autant pour le projet de la mine que l'usine de transformation à Bécancour. Est-ce qu'on demeure optimiste d'avoir les effectifs nécessaires?
On est très optimiste. Déjà pour la période de construction, on a beaucoup d'intérêt des gens de la région qui souhaitent venir nous donner un coup de pouce au chantier. D'ailleurs, j'invite les gens à visiter notre site web nmg.com. On a un registre de main-d'œuvre locale et autochtone auquel ils peuvent s'inscrire pour qu'on puisse les mettre en contact avec les entrepreneurs au site. On aura également une activité à venir au début juin, le 9 juin à Saint-Michel-des-Saints. Je lance l'invitation à l'antenne pour les fournisseurs qui souhaitent faire équipe avec nous pour la construction de la mine, également pour la main-d'œuvre qui souhaite venir rencontrer les travailleurs au chantier. Donc, on fait un blitz présentement en préparation pour le chantier, puis très rapidement, on va se tourner vers la préparation pour l'opération commerciale avec les emplois permanents à long terme.
Voilà, c'était Julie Paquette, elle est vice-présidente communication et stratégie chez Nouveau Monde Graphite. Il est 16h43. Dans un moment, les craintes d'espionnage de Paul Saint-Pierre-Plamondon, le point de vue de Pierre Paquette.
Amateurs de burger, venez déguster le savoureux burger Angus fromage et bacon de Harvey's. Fait de bœuf Angus de première qualité, cuit sur le grill et garni à votre goût. Rendez-vous dès maintenant au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks 2026 avec un taux de financement aussi bas que 0% sur 36 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Besoin d'un service informatique fiable à la maison? Chez Fleet Info, nous offrons réparation, optimisation et une vaste sélection d'ordinateurs et d'accessoires, incluant nos modèles de PC gaming sur mesure. Service rapide et conseils d'experts en magasin. Fleet Info à Joliette et Berthierville.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitre. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
À CFNJ,
Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Oui, et c'est le moment de retrouver Pierre pour parler de l'affaire Paul-Saint-Pierre Plamondon et des policiers, méchants policiers fédéraux. Salut Pierre.
Salut.
Il y a d'ailleurs aujourd'hui le ministre Simon-Jolin Barrette qui dit que Saint-Pierre Plamondon a raison là, de se méfier de la police fédérale.
Ben, c'est vrai, parce que comme Paul Saint-Pierre Plamondon et bien d'autres ont dit, il y a quand même une histoire là, derrière tout ça, et puis qui remonte aux années 70, mais qui s'est poursuivie au cours des décennies qui ont suivi. Et donc, c'est tout simplement une question de responsabilité, d'être prudent. Et puis, moi, j'ai été très étonné qu'on entende les hauts cris de certains suite à certaines mesures qui sont prises par le Parti québécois, par exemple pour le caucus ou les réunions de comités stratégiques autour de l'indépendance. On faisait déjà ça au Bloc québécois au début des années 2000. Quand on avait notre caucus, les mercredis matin, ben les députés devaient laisser, les employés aussi, leur cellulaire à l'extérieur de la salle, et c'était des agents de la GRC qui étaient venus nous briefer sur la question en disant que même un cellulaire fermé pouvait être un émetteur de messages pour des groupes extérieurs. Puis c'est pas juste la police fédérale, c'est aussi des groupes, bon, ça peut être des journalistes, ça peut être le crime organisé, ça peut être des puissances étrangères. Il n'y a pas juste le fédéral là, qui est intéressé par ce qui se passe au Parti québécois, et parce Pierre, qu'encore une fois...
Pierre, je te dirais, qu'importe le parti politique, qu'il soit au pouvoir ou non, vaut mieux y aller de précaution.
Ben exactement. Puis il n'y a pas un conseil des ministres qui se fait à Québec ou à Ottawa sans que les cellulaires soient dans des petites pochettes des pochettes de protection dont on a parlé. Ça prend juste un Alexandre Boulris qui sera jamais au pouvoir nulle part pour penser que ça a besoin de se faire soigner ces précautions-là.
Ça, c'est malaisant comme déclaration, et même, je te dirais, j'irais plus loin que ça en disant que c'est carrément stupide. Alexandre Boulris, le député indépendant maintenant, ex-NPD, là, qui s'en va vers Québec solidaire, qui, en commentant Paul Saint-Pierre Plamondon et les risques d'espionnage au Parti québécois, dit que je suis sûr que ça soigne.
Oui, exactement. Bon, d'abord, c'est minimiser ce que peut représenter la santé mentale. Je pense qu'on n'est plus là. Puis ensuite, c'est totalement méprisant. Puis comme je mentionnais, bien, c'est sûr que toi, quand tu es à 8% d'un sondage, je parle de Québec solidaire, tu n'as aucune possibilité d'accéder au pouvoir. Mais le Parti québécois, actuellement, il est premier d'un sondage. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe risquent de bonnes chances de devenir le prochain gouvernement. Donc, les précautions doivent commencer à être prises. Et je pense que c'est tout à fait normal. Juste pour rappeler aussi, c'est pas juste les partis politiques qui peuvent être éventuellement espionnés. Quand j'étais à la CSN, on a été espionnés par la SQ. On avait des deux agents qui avaient été infiltrés, puis des agents provocateurs. Alors, quand j'étais à l'exécutif de la CSN, on avait aussi des brouilleurs d'ondes dans la salle où l'exécutif de la CSN se réunissait. Alors, c'est simplement une question de précaution. Et puis, tant mieux s'il n'y a pas d'espionnage, mais au moins, s'il y a de l'espionnage, on va être sûr que les décisions ou les propos qui sont tenus lors des réunions stratégiques, des réunions importantes, ben il y aura pas de fuites qui vont aller vers des mains moins bienveillantes. Alors, moi, je trouve que ça se tient très bien. Et je vois pas pourquoi certains se sont offusqués, parler de paranoïa ou d'autres choses concernant cette décision du Parti québécois.
J'en discutais hier avec Jacques Plante et je disais, ce serait pas le décès il y a quelques jours de Claude Morin, l'ex-ministre péquiste, qui a ramené le sujet sur le tapis pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
Alors ça se pourrait très bien parce que on a ressassé cette histoire-là où Monsieur Morin, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il a pensé être capable de faire du judo avec la Gendarmerie royale du Canada. J'ai l'impression qu'il était un peu naïf et la GRC l'a utilisé comme agent d'information sur l'état d'esprit de l'intérieur, à l'intérieur même du Parti québécois.
Rappelons qu'il a été payé par la GRC, là.
Oui, il a été payé, puis bon, il a mis ça de côté, puis c'était... confié au ministre de la Justice de l'époque, qui a dit « touche pas à cet argent-là ». On a su après qu'il avait touché un petit peu là, pour différentes opérations. Mais c'est sûr, je crois que tu as tout à fait raison. Ça a ramené dans le décor, mais je suis convaincu que le PQ avant même que Claude Morin décède, avait déjà pris ces précautions-là, mais ça a ramené sur, au devant de la scène les possibilités que la GRC, le SCRS, des puissances étrangères, d'autres types de regroupements puissent espionner le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ. Et je suis convaincu que, encore une fois, le Conseil des ministres à Québec de la CAQ, ils vont pas avec leur cellulaire sans des précautions lors de leur réunion importante. Donc, c'est
la responsabilité. Pierre, qu'en 73, la police fédérale s'était emparée de manière illégale la liste des membres du PQ. Il y a eu aussi cette histoire qui a refait surface en 2020 de la GRC là, qui s'intéressait à la sexualité de René Lévesque au début des années 70.
Ça n'a aucun sens. Et justement, c'est que toutes ces faits-là, on les apprend 20 ans, 30 ans plus tard.
Ouais.
Alors, ce ne sera pas dans les prochains mois qu'on va savoir si la GRC ou la SCRS utilisent des moyens pour aller glaner des informations dans les réunions du caucus du Parti québécois ou d'un autre parti. Là, je pense que tous les partis qui sont sérieux devraient prendre les précautions nécessaires. Et puis, comme Paul Saint-Pierre Plamondon le disait, avec les technologies actuelles, pas l'espionnage, mais les possibilités de se faire écouter sont de plus en plus grandes. Alors,
ah oui.
Moi, je félicite Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ pour avoir pris ces décisions-là, comme on l'avait fait d'ailleurs au Bloc lors des années 2000.
Bon, ben reste à voir s'il y a véritablement actuellement de l'espionnage.
On va le savoir dans 20 ans.
C'est ça. Oui, mais Saint-Pierre Plamondon disait les journalistes devraient faire le travail puis aller fouiller un petit peu plus. Merci, Pierre.
Ils ont essayé, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est évidemment top secret.
Merci, Pierre. On se retrouve demain.
On se parle demain. Bye.
Voilà, c'est le moment de saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Mathieu Bélanger, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville ainsi que Pierre Paquette que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Manquez pas Nicolas Bellemare qui sera là avec le 5 à 7 trad et dans les prochaines minutes avec Hugo Valiquette pour La vie dans la Naudière. Nous, on sera là demain, 16h, pour une autre édition de La Naudière PM. Salut!